Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. Vous nous écoutez à la radio sur RMC, vous nous regardez à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Et en tout cas, eh bien nous on est ravis d'être avec vous durant ces 3 heures de direct. Et pendant ces 3 heures, vous serez accompagnés par la douce voix, non je ne sais pas si on peut dire ça,
non.
De Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Pas mal, pas mal, pas mal. On est également avec notre économiste préféré, bon, c'est le seul qu'on connaisse, Pierre Bondo. Bonjour Pierre.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Ouais, non, laissez tomber.
C'est un peu bannière.
Ouais, laissez tomber Pierre, restez comme vous êtes, tout va bien. L'écrivain et journaliste Fred Hermel, bonjour Fred.
Bonjour Estelle.
Ah, il y a un truc. Il y a un truc, mais à mon avis, il va tous vous battre. C'est notre infectiologue Robert Sebag. Oui. Bonjour Robert.
Ah Estelle, si vous saviez quel plaisir que j'ai de vous retrouver.
Non mais là c'est trop, laissez tomber. Non mais là c'est gênant. Voilà,
Vous l'avez cherché.
C'est 36-15 Roberto. Ouais. Là, c'est au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, ça le déficit bien. Public pour 2023 qui atteint 5,5% au lieu des 4,9% annoncés par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie doit-il démissionner? On en débat avec vous au 32-16 à midi et demi. On parlera de la menace terroriste et également du manque de personnel de sécurité pour les JO. Faut-il abandonner la cérémonie d'ouverture sur la Seine? À 13h, des dépenses de santé qui explosent en France. Faut-il rembourser les frais médicaux en fonction des revenus? À 14h, 4 Français sur 10 ont déjà consulté le portable de leur conjoint, mais espionné son partenaire. Est-ce normal ou malsain? Puis il y aura RMC Conso 14h30. On parlera du retour en force des consignes pour le verre. Et puis on jouera, Rémi, pour une très grosse somme d'argent.
Oui, et jusqu'à 50 000 euros à gagner sur RMC. C'est le retour du coffre RMC. Dès que vous entendez ce signal... Signal qui peut tomber à tout moment, tout au long de la journée sur RMC, même pendant les pubs. Donc restez bien à l'écoute et bien vous aurez 5 minutes top chrono à partir du moment où ce signal tombe pour envoyer coffre par SMS au 73216, coffre par SMS au 73216 et vous inscrire. Vendredi prochain, là ce vendredi, l'un d'entre vous sera avec nous pour tenter sa chance. Si vous êtes sélectionné, vous remportez la somme de 2 500 €, c'est déjà une très belle somme.
Bah oui.
Et à ce moment-là, vous avez le choix soit de conserver cette somme, soit d'y renoncer pour pouvoir ouvrir le coffre RMC. À l'intérieur, soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit jusqu'à 50 000 euros. Le mot à retenir, c'est simple, c'est coffre.
Mais oui.
Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et cette actualité, c'est le chiffre définitif des déficits publics. Et ce chiffre, il n'est pas bon. 5,5% du PIB, très loin des 4,9% annoncés par Bruno Le Maire il y a quelques semaines. On n'est donc absolument pas sur une marge d'erreur, Rémi, pour ce chiffre qui va déterminer la politique économique de la France pour les années à venir. Et Rémi, évidemment, les critiques pleuvent sur Bruno Le Maire.
Alors d'abord, les commentaires faits par le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il choisit bien ses mots. Hein. Il parle ce matin d'un dérapage important, pas tout à fait inédit, avant d'ajouter quand même que c'est très très rare. En cause, tu l'as dit, ce déficit de 5,5%, bien au-dessus des 4,9% initialement prévus par le gouvernement, il y a quand même un écart de 18 milliards d'euros. Oui. Les réactions politiques n'ont pas manqué. Éric Ciotti, le patron des Républicains, ironise sur la dernière symphonie du Mozart de la finance qui ressemble davantage au chant du cygne. Attaque également à gauche où le socialiste Stéphane Le Foll parle d'une erreur colossale qui relève de l'incompétence. Plus sévère encore, le leader du Parti communiste, Fabien Roussel, n'hésite pas à traiter Bruno Le Maire de menteur et d'escroc en col blanc. Le principal intéressé, lui, reste droit dans ses bottes, assurant que les finances de l'État doivent être rétablies, tout en écartant l'hypothèse d'une augmentation des impôts. Il affirme que sa détermination à repasser sous le seuil des 3% de déficit reste intact et total.
Ouais, enfin, vouloir faire 3% quand on est à 5,5, c'est quand même pas gagné. Alors, Bruno Le Maire doit-il démissionner? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel.
Bah, écoutez, dans la vie publique, dans la vie privée, dans les entreprises, quand on ne marche pas bien, quand on ne travaille pas bien, bah, en général, on est viré. Bah, c'est comme ça, ou alors on est mis au placard, ou on dit, bah, écoute, tu vas faire autre chose.
Enfin, être mis au placard quand on est ministre de l'économie, c'est compliqué.
Non, mais bah, on lui donne, je sais pas, les secrétaires d'État aux anciens combattants. Ça, il sera, voilà. Non, je suis désolé. Enfin, moi, j'ai rien contre Bruno Le Maire. Mais il est là depuis un moment, hein.
Alors, j'avais 6 ans, 10 mois et 8 jours.
Bah, c'est énorme. Donc, à partir du moment où les gens qui travaillent dans le privé sont assujettis au risque d'être mis de côté quand ils font pas bien leur travail. Regardez ce qui se passe à la télé, à la radio, quand les audiences sont pas bonnes, oui. Ben on vous change. C'est comme ça.
Ben en, là, même temps, il est fonctionnaire.
Donc... Oui, bon, mais enfin, oui, ben, oui, ben voilà le problème. Donc voilà, je suis désolé, il faudrait qu'il laisse la place. Il n'a pas réussi, ce qui se passe est quand même très grave. Hein. Un écart de 0,9 points, 18 milliards d'euros, c'est une erreur de calcul, de prévision. Voilà, il y a quelque chose de... Parce que on va voir les conséquences derrière.
C'est un pognon de dingue, hein, comme dirait Emmanuel Macron.
C'est un pognon de dingue, et les prévisions derrière, c'est est-ce que la France va être déclassée par les grands organismes qui notent l'économie française ? Et en fait, le prix de notre dette est fixé suivant, ça nous coûte plus cher si on perd enfin c'est les AA et tous ces trucs-là, si on perd un niveau de qualification... On est décoté et donc ça va nous coûter plus cher. Les intérêts vont nous coûter plus cher. Emprunter, puisque nous empruntons pour financer l'État. Tous les jours, la France emprunte beaucoup, beaucoup d'argent sur les marchés.
Les taux sont plus hauts. Donc,
et voilà, c'est une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas en même temps être comme lui, dire attention, la maison brûle, et en même temps de dire c'est pas de ma faute. Ben, oui. Désolé, il faut assumer, monsieur.
Ou de faire des chèques en permanence et de dire derrière, la politique du chèque, c'est plus possible. C'est Pierre Rondeau, qu'est-ce qu'on fait avec Bruno Le Maire ?
Alors, le renvoyer, qu'il démissionne ou pas, enfin, ça ne changerait rien. S'il conduit la politique.
Ce serait une autre politique.
Prescrite par Emmanuel Macron. C'est quand même le président ou le chef du gouvernement qui impose la politique à suivre. Bruno Le Maire est
c'est
à la
pas
tête
un
pantin, de Bercy.
Bruno Le Maire.
Non, mais il est à la tête de Bercy. Il a été nommé par le Premier ministre et par le Président de la République. Il est membre d'un gouvernement. Le gouvernement est mené par un Premier ministre en accord avec le Président. Si la politique est un échec, c'est pas directement le ministre qui est responsable, c'est la responsabilité du gouvernement. Moi, je demande pas à ce qu'il démissionne, parce que de toute manière, qui que ce soit à sa place ferait la même chose. La politique du chèque...
Il pourrait mener une autre politique.
Non, mais menée par le gouvernement. Derrière, lui, il répond
à une injonction du gouvernement. Bruno Le Maire dit qu'il faut arrêter la politique d'échec, faut arrêter l'autocratie. On se dit pourquoi il l'a pas fait pendant 6 ans.
Attaquer l'homme, on peut attaquer la politique. Si on attaque l'homme, effectivement, on peut dire que voilà, en termes de politique publique, en termes de politique de finances publiques, il y a eu des erreurs, il y a eu des. Alors, est-ce qu'on parle d'insincérité pour le budget ? Est-ce qu'on parle d'incompétence ? Est-ce qu'on parle d'excès de confiance ? Évidemment, il y a des erreurs. Maintenant,
Insincérité ou incompétence, c'est grave.
Soit excès de confiance, soit insincérité, soit incompétence. Si c'est incompétence, c'est très grave. Si c'est insincérité, c'est condamnable pénalement. Et si c'est excès de confiance, c'est psychologiquement instable. Donc, dans les trois cas, c'est problématique.
C'est ça ne va pas.
Mais ce qui est sûr, c'est que lui, ce qu'il annonce avec son bouquin sorti récemment, on pourra aussi discuter qu'il soit capable de faire des bouquins, 6 bouquins en 7 ans de présence à Bercy, et qu'il fasse des plateaux télé pour vendre son livre alors qu'il a la tête des finances, ça c'est critiquable. Et ça, je pourrais lui en porter rigueur. Mais très concrètement, dans la politique de finances publiques, que ça soit lui ou un autre, c'est la politique menée par le gouvernement et elle est critiquable. Les recettes, par exemple, on dit que voilà, on est en déficit. Recettes dépenses. Les recettes, Macron annonce que pour réussir à réduire la dette, à réduire le déficit, on va lutter contre le chômage. Il a réussi. Le chômage est passé de 9% à 7%. Comment ont évolué les recettes publiques? Ce sont les mêmes qu'en 2019. Aucune amélioration des recettes publiques. Les dépenses, elles ont explosé.
Recettes fiscales sont bien meilleures.
Oui, mais les recettes de l'État, les recettes publiques, sont les mêmes que celles de 2019. Les dépenses, plus 200 milliards. On annonce austérité, on annonce rigueur, plus 200 milliards.
Je te dis.
Donc concrètement, c'est la politique du gouvernement et c'est pas directement Bruno Le Maire.
Est-ce que Bruno Le Maire doit sauter Robert Sebag ou effectivement lui ou un autre, c'est pareil ?
Ah, certainement pas. Certainement pas. En dehors, si vous voulez, du symbole. Alors, on veut marquer le symbole. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Lui, il a mené une politique approuvée par le président de la République. Je veux dire, il a assumé. Alors, s'il n'était pas d'accord, il aurait pu démissionner, si vous voulez. Mais il n'a pas démissionné, donc il a suivi exactement ce que décidait l'Élysée. Alors, si vous voulez, c'est pas un changement de ministre qui va changer les choses. Je vous dis, en dehors du symbole, le défi, c'est 3%. Alors là, on va le juger. On va voir si ce gouvernement.
Bah, il n'y arrivera pas en un an.
Non, c'est impossible.
Ça paraît effectivement par deux quasiment déficit.
Alors, ils essayent de trouver un certain nombre de raisons. Baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a eu une petite récession au niveau économique. Il y a eu effectivement le quoi qu'il en coûte, mais il a suivi. C'est lui qui a donné des chèques. Parce que le quoi qu'il en coûte, le Covid, il ne doit pas rentrer en ligne de compte. Parce qu'il y a une aide européenne.
C'est pour ça que je te parle Voilà. 2019, voilà. Avant Covid. Oui, voilà. Avant Covid. Bon,
avant le Covid. Donc la question, effectivement, c'est, ce qui se passe est dramatique au niveau de l'endettement, mais le président de la République, apparemment, ne veut pas changer. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de pressions, parce que la question qui se pose, c'est augmenter les recettes ou diminuer les dépenses.
Tu peux faire
alors,
les deux.
Diminuer les dépenses, bon, ils vont chercher, il y a un certain nombre de niches. Augmenter les recettes, il y a le côté économique. Il y a aussi, si vous voulez, est-ce qu'on, par exemple, est-ce que les super profits vont être taxés? Alors, on sait qu'il commence à y avoir une brouille au sein du gouvernement. Vous avez des députés qui disent oui, il faut augmenter les impôts.
Il y a surtout Yael Braun-Pivet qui dit oui. Yael
Braun-Pivet hier qui dit oui. Bon, est-ce que ça va, et l'opposition. Donc, est-ce que ça va un petit peu déstabiliser le président et qui va dire, bon, ben, effectivement, à part les énergéticiens, on va essayer d'augmenter les super profits, de taxer les super profits. Mais aujourd'hui, ça semble effectivement un défi difficile à tenir.
En tout cas, il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui nous appellent pour nous donner leur point de vue. Et c'est le cas d'Éric qui nous appelle de Bretagne, de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et Éric qui est entrepreneur. Bonjour Éric.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour Éric.
Et Éric, vous vouliez passer un petit coup de gueule, hein, je crois.
Oui. Moi, je veux pas que Bruno Le Maire démissionne. Je veux que tout le gouvernement tombe, tout simplement.
Ah, d'accord, oui.
Écoutez, je vais faire en une minute.
Logique.
Ça va être très très simple. Explosion des déficits publics. Ils sont, on peut voir depuis 7 ans. Bruno Le Maire, Macron et compagnie. Explosion des déficits publics. Explosion de la dette. Explosion de la délinquance, de l'insécurité, de l'immigration. Dégradation massive des services publics, pardon. Et en plus de ça, on a un président qui veut aller faire la guerre en Ukraine et qui va nous coûter des milliards d'euros. C'est pas à quel argent. Enfin, je suis désolé. Moi, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, si je gère mon entreprise comme il gère la France, mais ça fait longtemps que je suis en faillite, que je saute. Et c'est pas l'URSSAF et les impôts qui vont me dire, bah non, vous avez mal géré cette année. Cette année, c'est cadeau. On va voir l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces incompétents? Mais c'est quand même incroyable. Enfin, imaginez. En plus, je veux lui dire, imaginez, si c'est Mélenchon ou Le Pen qui est au pouvoir et qui a ce résultat, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on dirait? Hein, franchement, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, mais c'est catastrophique, vous voyez, les extrêmes, etc., etc. Enfin, non, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut rendre des comptes aux Français à un moment donné. Enfin, je sais pas.
Alors, après, c'est pas, effectivement, c'est ce qu'on disait, Bruno Le Maire, c'est pas lui qui supporte tout seul sur ses épaules la politique économique de la France. C'est-à-dire que, en fait, il y a une politique et c'est lui qui l'amène, mais il a dû aussi avaler quelques couleuvres.
Ouais, mais que faisait Chevènement? Chevènement, il démissionnait quand il n'était pas d'accord avec le président. Et il l'a fait. Bah, un ministre.
Enfin, Chevènement, il n'a pas eu beaucoup.
Non, mais,
hein.
Je suis désolé. S'il n'est pas d'accord avec la politique qu'on l'oblige à mener, il n'a qu'à démissionner. Donc, c'est parce qu'il est d'accord avec cette politique.
C'est ce qu'a fait Aurélien Rousseau, d'ailleurs, le ministre de la Santé.
Exactement, par exemple, voilà. Oui. Enfin, au moment de la loi sur l'immigration.
Exactement.
Après, il a la tête non pas d'un État, mais d'un ministère et des finances publiques. C'est économie et finances, c'est les finances publiques. Démissionner ou non, il répond à des politiques. Il doit être sûrement d'accord avec ce type de politique.
Il est obligé de nous mentir.
Quand il écrit un bouquin en disant qu'il est pour l'État protecteur et contre l'État social, c'est la politique du chèque. Et le chèque était mis en place pendant le Covid, il était d'accord avec cette politique. Lui, son espérance, si j'entends bien, si je comprends bien ce qu'il dit, son espérance, c'est que actuellement, on relance l'économie, et surtout en période Covid, on relance l'économie. Maintenant que ça va mieux, si ça va mieux, on fait de la rigueur, on réduit les dépenses et on augmente les recettes. Donc il répond à sa politique. Il est d'accord avec ce qu'il fait finalement.
Rémi, on a beaucoup de messages également de la même tonalité que celui d'Éric sur l'appli RMC. Hein.
Message de Chris, par exemple, qui nous dit bonjour dans n'importe quel emploi à responsabilité, quand on est, ou alors quand on est à son compte, avec des résultats comme cela, on est viré, ou alors on a un minimum de fierté, bien on démissionne, voilà ce que nous dit Chris. Et à Cyril qui nous dit quand même, c'est pas pour défendre Monsieur le Maire, mais il n'a pas été aidé par les annonces et les cadeaux faites par Emmanuel Macron. Heureusement qu'il y a eu le bouclier énergétique, sinon combien d'entreprises auraient disparu et le chômage monté.
Non, mais ça c'est sûr, mais encore une fois, moi ce qui me gêne, c'est que Bruno Le Maire, quand il te dit 4,9 et que c'est 5,5, on n'est pas sur la marge d'erreur. On n'est pas, tiens, 4,8, c'est 4,87.
C'est vrai.
Mais là, on est à 10% d'écart, 18 milliards. C'est-à-dire que soit, encore une fois, soit il nous a menti sciemment parce que c'est la politique de non, mais vous inquiétez pas, la méthode Coué, tout va aller bien, c'est super, ça va aller. Ou alors, il ne savait pas, l'un dans l'autre, il y a un truc qui ne va pas de toutes les manières.
C'est là où c'est grave, il a escompté des recettes publiques via l'estimation de croissance. Personne, tous les organismes financiers français et européens, banques françaises, banques centrales, INSEE, tout le monde disait que la croissance, l'estimation de croissance 2024-2023 était plus faible que celle annoncée dans le budget. Il a suivi, il n'a écouté personne. On parle d'insincérité ou d'incompétence, mais en tout cas, quand on dit oui, c'est pas de sa faute, c'est des politiques de chèque. Vous avez les dépenses publiques, mais vous avez les recettes. Et les recettes, l'estimation de croissance était fausse. Donc moins de TVA, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés, et résultat déficit. C'est aussi de sa faute.
Et l'emploi.
Et l'emploi, évidemment. Notre invité sur ce débat, c'est Arnaud Benedetti, auteur de « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du Cerf, et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous tous.
Ah, ça faisait longtemps, Arnaud, vous m'avez manqué. Arnaud, Bruno Le Maire, il doit démissionner ou pas? Parce que là, on est quand même sur une grosse erreur de calcul. Hein.
Écoutez, moi je viens d'entendre ce que disent la plupart de vos interlocuteurs autour de votre table et je suis assez d'accord avec eux. Il y a une responsabilité qui est une responsabilité collective. Ouais. C'est bien évidemment la responsabilité du président de la République et c'est la responsabilité de tous les chefs de gouvernement qui se sont succédés depuis 2017. Parce que quand même, ce qu'il faut noter, c'est que depuis 2017, la dette publique a augmenté environ de 800 milliards d'euros, ce qui est considérable et ce qui constitue vraisemblablement dans l'histoire récente un dérapage qui est somme toute assez unique. Alors après, si vous voulez, le problème que ça pose, au-delà de la question des finances publiques et de la façon dont on va résoudre cette équation, c'est extrêmement compliqué, c'est que, si vous voulez, Emmanuel Macron quand même s'est fait élire à deux reprises sur une image qui était une image de compétence par rapport à son principal adversaire qui était le Rassemblement National. Mmh. Aujourd'hui, indéniablement, si vous voulez, cette image de compétence, quand on écoute
elle est un peu écornée, aussi, ouais.
un certain nombre de vos interlocuteurs au téléphone, ben, clairement, elle est foncièrement écornée. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, il va y avoir un problème parlementaire à un moment donné, parce que il faut être clair, si vous voulez, le budget tel qu'il a été établi pour l'année 2024 était un budget qui était établi sur des perspectives de croissance dont un certain nombre d'experts, un certain nombre d'économistes et un certain nombre d'entrepreneurs disaient qu'elles étaient vraisemblablement surestimées. Oui. Donc ça, c'est un vrai sujet, et là aussi c'est un sujet en effet pour Monsieur Le Maire, parce que c'est Bercy, mais c'est aussi un sujet pour le chef de gouvernement et pour le président de la République. Donc le problème.
Alors c'était pas Gabriel Attal au moment où il y a eu toutes ces prévisions quand même. Hein.
Mais enfin, Gabriel Attal a été ministre des Comptes Publics, je vous le rappelle.
Complètement.
Aussi, hein,
c'est vrai, vous avez raison.
Gabriel Attal a été ministre des Comptes Publics, Monsieur Darmanin a été ministre des Comptes Publics, donc tout.
Et Emmanuel Macron lui-même a été ministre de l'économie, donc.
Tous les responsables politiques sont quand même à un moment donné quelque part responsables des actes et des politiques publiques qu'ils peuvent conduire. Donc je pense que outre la question des finances publiques qui est assez dramatique pour la France, on va avoir quand même, je le rappelle, deux agences de notation qui vont se prononcer, l'une au mois d'avril et l'une au mois de mai. Et je ne vois pas aujourd'hui, à ce stade, compte tenu de ce que l'on sait, comment la note de la France ne sera pas dégradée.
Ben c'est ça.
Donc évidemment, si elle est dégradée, ça aura un impact sur le coût du crédit. Ensuite, parce que la France va devoir à nouveau emprunter. Je rappelle qu'on a quand même emprunté 270 milliards d'euros sur les marchés étrangers au mois de septembre ou au mois d'octobre de l'année dernière. Et l'autre sujet, c'est que la dette française est une dette qui n'appartient pas totalement à la France. Il faut quand même aussi en être conscient. C'est-à-dire que 50% de notre dette est détenue par l'étranger, ce qui limite nos capacités de souveraineté. Et je pense que ça va poser un problème au niveau du Parlement. C'est que le risque est très grand une motion de censure soit déposée à un moment ou à un autre contre le gouvernement. Ah ben, là, si vous voulez, toutes les oppositions ont, pour des raisons qui seront vraisemblablement différentes, je veux dire, d'une certaine manière, de bonnes raisons de vouloir et de pouvoir censurer le gouvernement. Donc, je pense que ça ne sera pas sans conséquence également sur le plan parlementaire dans les mois, et en tout cas, ça sera en tout cas une discussion budgétaire. La discussion budgétaire pour le budget 2025 sera extrêmement, extrêmement compliquée. D'ailleurs, je n'en veux que pour preuve le coup de rabot qui a été donné de 10 milliards d'euros il y a maintenant à peu près
un mois,
n'a pas donné lieu à un collectif budgétaire, comme il aurait été normal qu'il soit un collectif budgétaire, en l'occurrence, parce que tout simplement, l'exécutif craint en effet la réaction de l'Assemblée nationale sur un collectif budgétaire.
Alors, on avait bien besoin de ça.
Ils seront obligés.
Effectivement, c'est alors si en plus. Il y a une
motion. Il nous a sapé le bord. Alors, on était oui. pas très
mais
fort.
Mais c'est vrai qu'on n'était pas allé jusque-là. Mais écoutez, merci beaucoup, Arnaud Benedetti, en tout cas, de nous avoir ouvert l'esprit.
Mais il y aura des modifications budgétaires en fonction des chiffres qui sont sortis. Bah, oui. Donc, ça veut dire 49-3. Si on veut que ça passe, si 49-3, c'est motion de censure. Ouais. Elle passe ou elle passe. Mais si, mais systématiquement, quand vous avez 49-3, il y a un dépôt.
Mais là, il faut avoir une motion de censure sans même qu'il y ait 49-3.
Exactement.
Exactement. Mais là, ça peut le provoquer.
Le GTE, le 49-3, je le garderai dans ma poche, quoi, tu vois, parce que
ils sont obligés. Et on ça, oublie ça, une ça chose, plus, hein. C'est que ce quinquennat, il reste 3 ans. Oui. Ça va être très long. Hein. Nous sommes qu'au début, la première moitié de ce quinquennat. J'ai l'impression que ça va être très très long.
Un peu plus de 3 ans. On a Jérôme également en ligne, qui nous appelle d'Annecy et qui est cadre dans l'industrie pharmaceutique. Bonjour Jérôme.
Bonjour Estelle.
Bonjour. Jérôme, est-ce que Bruno Le Maire doit démissionner ou est-ce que ça changerait rien?
Non, je suis un peu aligné avec Pierre Rondeau. Je pense qu'en fait, la personne, soit elle a des problèmes de compétences, soit elle est sincère, mais après, elle fait suivre que le gouvernement et la politique d'Emmanuel Macron. Et en fait, je pense que le problème, il est vraiment là, quoi. En fait, c'est l'État français qui a failli, quoi. C'est pas que la personne Bruno Le Maire.
Ouais, mais l'État peut pas démissionner, donc.
Le gouvernement peut démissionner, par contre.
Ouais, j'entends, mais dans une équipe de foot, par exemple, quand il y a de mauvais résultats, a priori, d'abord, on fait démissionner l'entraîneur, et puis après.
C'est l'entraîneur de Bruno Le Maire.
Ouais, ça m'étonnerait qu'Emmanuel Macron démissionne, mais c'est l'entraîneur de l'économie, vous voyez ce que je veux dire? L'équipe économique, elle est entraînée par Bruno Le Maire.
Il y a des démissions de président dans l'histoire du foot.
Oui, j'entends, mais effectivement, quand l'équipe de France ne va pas bien, a priori, tu tombes pas sur le président de la Fédé, tu tombes d'abord sur le sélectionneur. Donc là, le sélectionneur de l'économie, en tout cas, c'est Bruno Le Maire. Donc il y aurait une logique.
Après, je pense que aussi de mon point de vue, enfin, là où ça va poser un problème, c'est les solutions qu'ils sont en train de proposer, parce qu'il est en train d'ouvrir la porte sur toucher encore au chômage, toucher aux maladies de longue durée, toucher aux arrêts maladie.
C'est ça.
À un moment.
Mais pas aux impôts.
Pas aux entreprises, pas chercher c'est des ça. Solutions potentiellement ailleurs. Quoi, parce que
oui, non, mais même là, Bruno Le Maire n'arrête pas, il fait tous les plateaux télé pour vendre son livre et dit il n'y aura aucune augmentation d'impôts.
Je ne peux pas croire
comment il va tenir un budget, enfin, non pas à l'équilibre parce qu'il ne l'est pas, mais pendant 3 ans tenir un budget sans aucune augmentation d'impôts. C'est évident qu'il doit le faire. C'est recettes et dépenses, mais recettes aussi, recettes fiscales.
Il espère une reprise de l'économie.
Il faut équilibrer les deux côtés. Ça, c'est sûr que s'il veut
Merci Jérôme en tout cas d'avoir été avec nous, et on va terminer avec Louis qui nous appelle de Marseille. Et alors, c'est la première fois dans toute l'histoire d'Estelle Midi qu'on accueille un astrophysicien qui nous appelle. Alors là, je suis très contente, Louis.
Bon, écoutez, merci, c'est gentil.
Voilà. Je suis limite flattée, je me dis, on est écouté par des astrophysiciens.
Je vais quand même un petit peu vous refroidir.
C'est pas grave.
Parce que je trouve que vous êtes tout de même un peu tous sacrément hypocrites. Parce que, enfin, si on y réfléchit, depuis 1975, c'est-à-dire depuis Giscard d'Estaing, je ne sais même pas s'il y en a qui se souviennent de qui est Giscard d'Estaing.
Oh, bah si, quand même.
Eh bien, la France a toujours été, a toujours eu un budget déficitaire. Toujours.
Mais pas à ce point-là.
Les intérêts de la dette.
Mais bien sûr que si. Alors attendez, moi je me rappelle de 81 et 82, vous étiez une catastrophe. On ne pouvait même plus aller dépenser avec sa carte bleue 30 centimes.
Mais évidemment, mais on empruntait à 15% à l'époque.
Alors, non, mais je veux dire, calmons-nous un peu. C'est vrai que quand on dit mais tout ça c'est la faute de Macron ou la faute de la politique de Le Maire et ainsi de suite, il y a quand même toute une conjoncture qui est absolument mauvaise.
Mais on est les avant-derniers d'Europe.
Qui a coûté très cher, il y a eu le Covid qui coûte très cher.
Mais il a coûté cher à l'ensemble de l'Europe, et pourquoi on est avant-dernier, Louis?
Mais on est avant-dernier, écoutez, ça alors là...
On est juste derrière l'Italie, on adore l'Italie, mais enfin bon...
Là vous parlez du déficit total, effectivement, on a accumulé le déficit. Et cela dit, autant que je me souvienne, strictement tous les hommes politiques dans l'opposition ont râlé en disant « Oh là là, mais on accumule les déficits, Et jamais personne n'a proposé de réduire les déficits. Alors soit...
parce que Bruno Le Maire, il est là et qu'à un moment, les autres ne peuvent pas faire grand-chose. C'est à lui de conduire la politique de la France.
Mais n'empêche que personne ne propose de réduire les déficits.
En l'occurrence,
Moi, je me rappelle que quand on a rogné 5 euros d'APL il y a 7 ou 8 ans, c'était quasiment la révolution dans la rue.
Alors, oui, c'est vrai. Vous avez...
Donc, il faudrait arrêter de que les gens...
Ah ben, c'est jamais populaire.
Oui, mais écoutez, oui, effectivement, les prestations sociales sont très généreuses en France. Elles sont probablement... plus généreuse que dans la plupart des pays de l'OCDE, les retraites sont effectivement assez plutôt généreuses. Et bien, qu'est-ce que vous voulez, on en paye les conséquences. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de mystère. Quoi.
Mais voilà. C'est vrai que c'est difficile de dire aux Français on va renier sur les aides, les retraites, etc. Et que c'est sûr que ce ne seraient pas des mesures très populaires au moment d'une élection. Merci beaucoup, Louis, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. On termine avec notre sondage. Rémi, Bruno Le Maire doit-il démissionner? C'était plutôt non sur le plateau. Non, ce n'est pas uniquement de sa faute. Ça donne quoi sur le sondage?
C'est carrément oui sur notre consultation. Oui pour 85% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Oui, donc là, il y a encore une plus grande marge d'erreur que dans les comptes de Bruno Le Maire.
C'est qualité ou incompétence?
Bonjour la popularité.
Dans un instant, on parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle sera dans 4 mois exactement. Elle a un peu de plomb dans l'aile, cette cérémonie, avec les risques d'attentats. Il manque toujours également des personnels de sécurité. Faut-il abandonner la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine? À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Fred Hermel et Robert Sebag. On va s'intéresser tout de suite à l'inquiétude du jour et c'est celle qui entoure les Jeux Olympiques et plus particulièrement la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine dans 4 mois exactement, le 26 juillet prochain. Dimanche, le gouvernement a rehaussé le niveau du plan Vigipirate en raison de la menace d'attentat et il manque toujours près de 10 000 personnels de sécurité. Bref Rémi, la sérénité n'est pas de mise. Quelles sont les solutions de repli pour cette cérémonie?
Alors, officiellement, rien n'est remis en question. La cérémonie sur la Seine, prévue le 26 juillet prochain, aura bel et bien lieu, mais en coulisses, les réflexions iraient bon train. Selon le journal Le Parisien et Le Canard Enchaîné, plusieurs réunions ont eu lieu ces dernières semaines à ce sujet. Beaucoup de scénarios seraient sur la table, des plans de repli, dont l'un serait le Trocadéro, un lieu qui est déjà prévu pour être bouclé le soir de la cérémonie, puisque c'est là que doit s'achever normalement le défilé prévu à l'origine et où doivent prendre place les dignitaires et des chefs d'État. On pourrait donc, peut-être, avoir le droit à une cérémonie allégée, sans athlètes sur la scène, ou alors juste avec les porte-drapeaux de chaque délégation sur les barges. L'Élysée dément, actuellement. Reste que si 500 000 personnes, en plus des 100 000 places payantes sur les kebabs, étaient prévues dans le scénario dévoilé fin 2021, donc 600 000 spectateurs étaient prévus, on en est passé à 220 000. Ça, c'est ce que a décidé le ministère de l'Intérieur pour des raisons de sécurité. Et ce n'est peut-être pas terminé. Il faut se souvenir qu'en décembre dernier, interrogé sur le sujet, Emmanuel Macron avait assuré qu'il y avait évidemment des plans B pour le coup d'envoi des JO en cas de menaces terroristes accrues.
C'est ce qu'on a maintenant, alors. Alors, faut-il abandonner la cérémonie d'ouverture sur la Seine, Robert Sebag?
Je pense que c'est trop tard. Il y avait une originalité, si vous voulez. Attendez, il y avait une originalité, effectivement, qu'attendait tout le monde. La question qui se pose, lieu clos ou lieu ouvert? La cérémonie sur la Seine, c'est un lieu ouvert. Si on le fait au Stade de France ou ailleurs, lieu fermé, je pense que s'il y avait
Stade
un
Stade de
risque...
France, on ne peut plus, il y a déjà un match.
Bon. C'est totalement exclu, apparemment.
C'est fini.
Bon, alors, il reste quoi? Il reste
Trocadéro.
Trocadéro. Alors, j'ai vu que Mme Hidalgo a préparé, puisqu'elle a déjà coupé la place en deux. Je vous demande d'y passer. Non, je crois qu'il faut prendre le risque zéro n'existe pas, quel que soit le schéma de la cérémonie d'ouverture. Donc, on a lancé quelque chose, on se donne les moyens, on le voit au niveau, même s'il manque, je pense que ça pourrait être réglé. Et puis, eu égard au déficit budgétaire, s'il manque de l'argent pour affiner un petit peu cette cérémonie en termes de sécurité, il y aura de l'argent. Ils ont réduit le nombre de personnes. Si vous voulez, s'il y a un risque d'attentat en lieu ouvert au bord de la Seine, les gens peuvent partir très vite. Si c'est dans un lieu clos, c'est beaucoup plus difficile.
Il n'y a rien de plus sécurisé qu'un stade.
Vous allez avoir des entrées au Trocadéro ou ailleurs.
Mais non,
un contrôle fermé.
Oui, tu fermes la place Trocadéro et tu fais des contrôles.
C'est comme des fan zones.
Ceci étant dit, les quais devraient être fermés aussi avec des contrôles, mais alors, bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de poids.
Je ne parlerai pas du risque d'image, si vous voulez, de crédibilité de la France, ah bah sûr, si on changeait aujourd'hui le schéma prévu.
Pardon. Mais je pense qu'aux yeux du monde, tu pourrais leur dire qu'effectivement, tu as eu un attentat en Russie, tu as le conflit sur le Palestinien, tu as la guerre en Ukraine. Je pense que le monde entier, si c'est bien expliqué, bien amené, plutôt que de faire comme aujourd'hui, un excès de confiance en disant on aura. Elle aura lieu, on mettra en place cette cérémonie. Je pense que le monde entier pourra comprendre que face au risque terroriste, il faut changer, il faut un plan B, il faut une alternative. C'est pas vraiment. Et si entre mettre en jeu l'honneur de la France ou réduire les risques d'attentats terroristes, je préfère qu'on améliore la sécurité et qu'on réduise le risque que de mettre en jeu notre honneur.
Je veux dire, le risque zéro n'existera pas.
Mais
il peut y avoir peut-être pas la cérémonie d'ouverture. Il y a des compétitions qui auront lieu en province, à Châteauroux ou ailleurs. On peut faire autant de bruit si vous voulez, n'importe. Je veux dire.
Il faut le minimiser ce risque.
On va le minimiser. Il y aura moins de personnes qui vont venir. Enfin, je veux dire, il faut peut-être dire, c'est trop tard. Il y a un risque absolument. On le prend pas et on arrête.
On va arrêter les JO.
Tu dis la sécurité, quitte à ce qu'on soit endetté, autant mettre plus d'argent pour la sécurité, on embauche plus de personnel.
Il manque 10 000 personnes,
oui. Admettons 4 500 pour.
C'est pas qu'une histoire
pour la cérémonie d'ouverture. Oui, mais d'accord, admettons que tu en prennes maintenant 4 mois de formation. Tu formes pas en 4 mois des gens chargés de la sécurité contre un risque terroriste. Pas en 4 mois. C'est trop tard, c'est fini. Quand même, tu dis.
Ouais, mais c'est aussi des mecs pour contrôler ton sac, normalement, 4 mois devraient suffire.
D'accord, des retraités, des étudiants pour la sécurité contre des risques terroristes.
Non, mais c'est pas. Il n'y a aucune bonne solution parce que vous allez déshabiller pour la cérémonie d'ouverture en termes de sécurité parce qu'il le faut. Il va y avoir personne en province et il peut y avoir un gros attentat en province.
Il y aura beaucoup de monde.
Donc je veux dire. Il faut le prendre, ce risque. Il fait très très peur. Je suis d'accord avec vous. Il me fait très très peur, mais je pense qu'aujourd'hui c'est trop tard.
Fred Hermel, est-ce qu'il faut arrêter les frais pendant qu'il en est encore temps? Parce que il nous reste quand même 4 mois pour une solution de repli, ou au contraire, se dire qu'effectivement le risque zéro n'existe pas?
Je pense que ce serait catastrophique d'annuler. Ce serait céder face à la menace.
Il est annulé. Annulé, c'est faire ailleurs.
La cérémonie sur la scène.
Oui, bon bah.
Ah oui, après, excuse-moi, si on fait un petit truc avec.
Non, mais les JO, c'est la compétition, c'est pas la cérémonie.
Et simplement les porte-drapeaux, ça va faire moins grandiose quand même. Et puis là, ce qu'il y a de beau dans une cérémonie, c'est que tous les athlètes qui participent aux JO soient présents. Donc, non, moi, je pense qu'il faut continuer. Il y a le Tour de France juste avant aussi, dans ce cas-là, il y a une menace d'attentat au Tour de France.
Avec Arrivée à Nice, c'est pas pareil.
On va arrêter le Tour de France aussi. Tu vois ce que je veux dire, le Tour de France, automatiquement, c'est très dangereux aussi. C'est très dangereux aussi, le Tour de France. Donc, on ne fait plus rien. Donc, non. Et alors. En tant que parisien, ça me fait toujours bizarre de dire ça, enfin, en tant qu'habitant de Paris, parce que je me sens pas parisien. Moi, je suis prêt à ce qu'on réduise un peu mes libertés, à que ce soit un peu chiant pour moi, pour sécuriser ça.
Oui.
Ça va être le cas.
Ça va pas être un peu.
Paris va être sous cloche. Voilà. Eh ben, faut accepter que pendant quelques heures, parce que la cérémonie c'est quelques heures, et pendant les 2 mois avec les Jeux Olympiques et les Paralympiques, etc. Il y a un peu plus de sécurité, que ce soit un peu plus compliqué. Faut l'accepter. C'est une fois tous les 100 ans. Voilà. Donc, quand on vient à Paris, on a plein de chances d'avoir accès à plein de trucs. Bah oui, ça va être un petit peu emmerdant. Mais il faut aussi que les Français.
Non, mais là, c'est pas emmerdant. Là, on parle de terrorisme. Donc, mais en fait, non, je vais faire 3 stations de métro plus.
Non, mais ça veut dire que automatiquement, si on sécurise extrêmement, extrêmement, extrêmement fortement. Les JO, ça va avoir un impact sur notre vie quotidienne.
Oui.
Il y aura des contrôles partout. Il faudra simplement que les Français acceptent ça. Donc moi, je pense qu'il faut, bien entendu, renforcer au maximum la sécurité, quitte à emmerder les gens, pour permettre ce spectacle qui va être grandiose, quoi qu'il arrive. Et je serais ravi qu'on se parle à la fin de ces JO et de se dire, ouais, ça a été génial. Parce que je pense que la France a démontré au monde qu'elle est capable d'organiser un grand événement comme ça et de sécuriser cet événement.
Mais je l'espère et je suis persuadé que cette cérémonie elle sera grandiose. Sauf que le risque, il est quand même énorme. On est avec Chami, qui nous appelle de Livry-Gargan, qui est responsable d'exploitation dans la sécurité. Justement, bonjour Chami.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Chami, c'est problématique le fait qu'il manque 10 000 personnels de sécurité, ou est-ce que un personnel de sécurité, ça se forme rapidement?
Mais alors, c'est une très bonne question, Estelle. Donc, tout d'abord, en fait, c'est problématique parce que déjà, on est à moins de quasiment 10 000 agents de sécurité. Nous, on nous a demandé de recruter des étudiants, des retraités, etc., de les former. Donc, oui, ils nous ont facilité en inventant un diplôme qui s'appelle le CQP PSGE. Donc exclusivement réservé aux étudiants et aux retraités pour qu'on puisse les former pendant 105 heures environ. Mais la problématique, c'est que nous, on se démène à trouver ces futurs candidats et agents. mais avec le CNAPS. Donc le CNAPS, vous savez, c'est ce qui gère la sécurité privée en France.
D'accord.
Et en fait, ils mettent un mois et demi à répondre à nos demandes préalables.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des étudiants et des retraités qui vont assurer notre sécurité pendant les JO.
Eh ben exactement.
Bah vous m'inquiétez quand même.
C'est exactement ça.
Pardon.
Alors, mais Chami, ils vont faire quoi ces gens-là? Ils vont juste regarder mon sac ou me fouiller?
Voilà, exactement. C'est pour la palpation, c'est pour ce qu'on appelle un pré-filtrage.
Oui, ils seront pas snipers sur un toit, quoi.
Non, mais
je me demande.
Mais c'est la réalité des choses. Hein, c'est la réalité des choses. Là, on est en train de, ils sont en train d'envoyer donc le France Travail pour essayer de recruter au maximum les anciens cuisiniers, les anciens serveur, tout le monde va être mis à contribution. Voilà, on va les former au bout de 3 semaines, ça va être expéditif, hein, la formation. Ah
oui. Donc là, on est en train d'aller voir France Travail, effectivement, les gens qui sont au chômage depuis super longtemps, et on va leur dire, bah tiens, tu gères la sécurité pendant les JO. Bah écoutez,
voilà. Il faut rappeler ce qui est.
Ça fait plus de 25 ans que je fais ce joli métier. Hein. On s'occupe jamais des agents de sécurité toute l'année. Juste parce que les Jeux Olympiques arrivent, on parle jamais de nous.
Ça, vous avez raison.
Dès que les Jeux Olympiques arrivent, les agents de sécurité. Ben moi, je vais vous parler honnêtement. Moi, je suis un agent de sécurité. Bon, aujourd'hui, j'ai monté de grade, je suis responsable d'exploit. Mais si vous voulez, aujourd'hui, des agents de sécurité, moi, je les vois, je les côtoie tous les jours. Et une grosse majorité ne veulent pas travailler pour les Jeux Olympiques. Et je vous le dis clairement.
Ben oui, c'est les vacances.
Je voulais dire, moi, oui, c'est les vacances, et puis la majorité sont en CDI, ils ont déjà leur poste, etc., etc. Donc, ils vont pas spécialement envie d'arrêter pour les Jeux Olympiques.
Mais donc, on l'a fait sur la scène ou pas, cette cérémonie, ou c'est trop risqué?
Il faut surtout pas, c'est trop risqué. On n'est pas prêt. Et en plus de ça, j'ai l'impression que, quand je dis gouvernement, je vais pas leur jeter la pierre à chaque fois, mais ils nous mettent des bâtons dans les roues. Nous, on essaie de trouver des futurs agents candidats, potentiellement, qui peuvent faire l'affaire. Mais comme je vous dis, ils nous demandent une autorisation préalable parce qu'ils sont obligés de vérifier leur casier judiciaire.
Mais je préfère quand même, Chami. Il y a quand même une logique. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose? Je te sens très chafouin.
Non, pas du tout. Mais il faut pas prendre aussi, non plus nos services de sécurité pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a des gens responsables au ministère de l'Intérieur. Il faut prendre des agents de sécurité. Par exemple, des retraités ou des étudiants, on l'a dit, il y a différents niveaux de pré-filtrage. Souvenons-nous des dramatiques, évidemment, attentats le 13 novembre 2015, aux abords du Stade de France. C'était des stadiers qui étaient juste devant l'entrée pour un pré-filtrage, j'allais dire. Et quand les terroristes qui voulaient s'en prendre au Stade de France sont arrivés, ils n'avaient pas de billets. On leur a dit, non, mais vous n'avez pas de billets, vous ne rentrez pas. Et ils sont partis.
Ils sont
partis. C'était des amateurs, mais il y a différents niveaux de filtrage lors de telles manifestations. Et plus on se rapproche du cœur de l'événement, plus le filtrage est serré et plus le filtrage est fait par des professionnels.
Alors là, j'ai un message de quelqu'un de la BAC qui m'écrit et qui me dit, Estelle, il y aura énormément d'effectifs de police partout. Ils déshabillent des BAC de banlieue pour les mettre à Paris. C'est-à-dire que en revanche, ce sera open bar.
Je
vous ai dit, il y a un élément,
on parle très rapidement,
mais moi, juste un élément sur le côté artistique de la cérémonie. 6 km tout le long de la Seine, ça va être d'un ennui mortel. Mais ça va être mortel.
La parade des géants, c'est un ennui mortel.
Une cérémonie à ciel ouvert dans la rue, là, ici, 6 km, c'est ennuyeux. C'est visuellement, à la télévision peut-être, sur place, t'es au pont Mirabeau, ça part du pont BNF.
C'est comme quand t'es sur le Tour de France et que t'attends, c'est le principe d'une cérémonie.
Mais la cérémonie, elle est pas faite pour les gens qui assistent, elle est faite pour la télé. Elle est faite pour la télé. Pour les milliards de gens qui vont à la télé, c'est pour ça, ça n'a aucun intérêt d'y aller.
Mais en lieu clos alors. Fais-le en lieu clos.
Ce sont les images.
Moi, j'aimerais bien y aller, regarder aussi
la
sur mon portable.
Avec tous les monuments de la Seine.
Vas-y aujourd'hui si tu veux, Robert, sur la Seine.
Non, mais Pierre, attends.
Va aujourd'hui voir la Notre-Dame.
Il y a une manifestation du bicentenaire de la Révolution. Ça partait de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. C'était plusieurs kilomètres. C'était magnifique. Moi, je regarde, c'était magnifique. Ça a duré longtemps, mais c'était superbe. Et ça sera superbe là aussi.
Je veux dire, 6 km en péniche, oui, ça va durer longtemps. Ça me rappelle effectivement la parade des géants.
Mais oui.
Vous savez que les géants sont maintenant dans les parkings de supermarchés. Ouais.
D'un ennui.
Ils n'allaient pas
vite. Et rendons hommage aux journalistes de l'époque qui devaient commenter.
Je crois qu'il y avait Charles Villeneuve qui commentait effectivement sur TF1 la parade des géants.
Il n'y avait pas Moussa.
Je sais, il y avait Moussa le géant, mais bien sûr, il y avait les géants de 5 continents. Alors, revenons à notre sujet. Faut-il abandonner la cérémonie d'ouverture sur la scène, Rémi?
Eh bien, la réponse, c'est très partagé. Je te connais. Tu vas me dire qu'on est dans la marge d'erreur. C'est le non pour 53% de ceux qui se prononcent sur nos réseaux sociaux.
Je trouve ça bien. Ouais. Voilà. Non, mais qu'on se dise, on garde. Voilà, ça va
être bon. Les Français en confiance.
Les gens ont confiance et ça, c'est plutôt une bonne chose. Dans un instant, on aura Mélinda d'Avansoulas. On n'arrête pas le progrès. Et Mélinda, tu vas nous donner des solutions high-tech pour mieux dormir. Et oui, l'insomnie n'est pas une fatalité. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi et c'est l'heure de parler nouvelles technologies avec Mélinda d'Avansoulas.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Mélinda, vous allez nous dire comment lutter contre un fléau qui mine la vie de très nombreux Français, c'est l'insomnie. Mais il y a des solutions high-tech justement pour mieux dormir.
Ben oui, on considère qu'il y a près d'un tiers des Français qui dorment moins de 7 heures par nuit, c'est-à-dire normalement ce qu'il vous faudrait pour éviter toutes les maladies cardiovasculaires, l'obésité et tout ça.
Je fais partie de ces gens-là.
Oui, moi aussi, mais je pense qu'on est, si on faisait un sondage, on serait très très nombreux. Le plus important, on dit, c'est de respecter votre rythme. Se coucher et se lever toujours à la même heure. Mm-hmm. Ça, c'est le truc le plus utopique, je pense, pour beaucoup.
Oui.
Arrêter les écrans. Alors, avec l'arrivée des smartphones, des tablettes, c'est la catastrophe. Donc, la tech, c'est pas bien, mais ça peut être bien, en effet. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider. Déjà, pour ceux qui ont du mal à s'endormir.
Ouais.
Ça, c'est mon cas. Il y a Terrayon Aloha. Ça fait partie de ce qu'on appelle ces diffuseurs de lumière. Alors, de lumière rouge pour vous aider à vous endormir.
Ah, il paraît que ça marche.
Eh ben oui. Alors, moi, j'étais hyper sceptique. Et franchement, ça marche. Il faut se laisser vraiment porter. Il faut pas être, si on est réfractaire, ça marche pas. Mais ça vous met dans de meilleures conditions. Ça vous aide aussi à baisser votre rythme cardiaque pour arriver à quelque chose de bien, de cool. Avec celui-ci, il y a des exercices de respiration. Mm-hmm. Donc, tout ça pour mettre bien. Et ça vous aide aussi, lumière bleue, pour vous aider à vous réveiller. Parce que l'autre problème, souvent, c'est ceux qui ont du mal à se réveiller. Alors, ça coûte une 60aine d'euros. Il y a aussi Dodo ou Weezings avec Aura qui font la même chose. Les simulateurs d'aube, c'est aussi la bonne solution pour se réveiller. Vous savez, c'est cette lumière qui va se diffuser progressivement, devenir un peu plus importante. Vous pouvez mettre des petits bruits d'oiseaux si vous voulez. Moi, non, ça, je déteste. On est d'accord.
Ça m'angoisse.
Alors, le seul problème de ce produit-là, eh bien, c'est qu'il faut avoir un peu de temps le matin parce que ça s'adapte à votre cycle de sommeil. Donc, ça met un peu avant ou un peu après l'horaire que vous avez prévu.
Non, ça va pas ça.
Donc, ça va pas du tout.
Si, par exemple, je suis très gênée par la lumière. Il y a des gens, en fait, qui ne dorment que quand c'est nuit noire complète. Qu'est-ce qu'on a pour eux?
Alors, on a des écouteurs. Ça, c'est la nouvelle tendance. C'est avoir des écouteurs pour avoir des bruits blancs. C'est ce qu'on appelle des bruits un peu qui vont vous calmer. Ça peut être le bruit de l'eau, le bruit d'un feu qui crépite, des choses comme ça. Alors il y a Bose qui avait sorti.
Je vois un naufrage, le feu qui crépite, je vois un incendie. Mais laissez tomber.
Le feu qui crépite.
Alors
je vous montre ça. C'est Philips Sleep Buds. Alors vous allez le mettre là, ça fait un petit coussin. C'est pas gênant, c'est étudié.
C'est un casque. Ah, c'est moi. Il y a des.
Sur le front.
D'accord, les fils. C'est sur le front?
Non, c'est non. Ça se met derrière et on le met dans les oreilles. Et alors là, j'ai peut-être pas les bons embouts. Et on met les embouts. Et en fait, il y a une application qui va vous diffuser le bruit que vous voulez, qui va vous calmer.
Ah oui.
Donc après, c'est chacun choisit ce qu'il veut. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas gênés par les écouteurs.
Dans un coffre, ça me calme.
Ah oui.
Normalement, c'est fait pour avoir moins de bruit. Mais sinon, il y a ça. C'est la Zenbox. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous choisissez votre bruit, ce que vous voulez. Alors on n'entendra peut-être pas. Ça va peut-être assez fort, parce que c'est quand même censé être pour dormir. Et là, vous choisissez.
C'est un truc pour les enfants.
Ouais, ça fait enceinte pour les enfants. Et on met en fait le bruit qu'on veut, crépitement de feu, l'eau, c'est au
alors,
choix.
En fait, là j'ai dans la main effectivement un truc qui ressemble à une enceinte, avec un peu de tissu autour, des petits motifs. Ça fait très veilleuse pour enfants et effectivement, ça diffuse les bruits que vous voulez. Quoi.
Voilà.
Enfin, faut aimer le bruit, quoi.
Mais c'est ça. Pour moi, en tout cas, ce qui casse le mieux, c'est ce qui va analyser votre sommeil. Et dans ces cas-là, parce que ça, c'est bien, mais analyser votre sommeil pour comprendre pourquoi vous dormez mal. Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il fait c'est trop humide dans votre chambre? Est-ce que vous avez un sommeil qui est agité en cours de nuit? Vous avez le sleep analyzer qui se glisse sous votre matelas.
C'est Weezings qui fait
ça. Weezings qui fait ça, exactement. Ça se glisse sous le matelas et ça va analyser votre sommeil. Si vous avez par exemple des ronflements, des choses comme ça, eh bien c'est pas mal parce qu'en fait c'est plus les conseils derrière. adapté à votre sommeil. Vous allez savoir, par exemple, si vous avez des phases de sommeil léger qui sont pas assez longues et pas assez de sommeil profond, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est ça le meilleur parce que ça vous donne des conseils et ça vous aide.
Et si vous avez une vie amoureuse trépidante, qu'est-ce qui se passe?
Alors, ça ne prend qu'une seule personne à la fois. Donc, pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Et sinon, ça, j'aime bien parce que ça, je la trouve très jolie. C'est la ScanWatch Lite. De Withings, aussi spécialiste du sommeil, qui va étudier, alors il faut avoir envie de dormir avec une montre, mais qui va étudier votre sommeil aussi pendant que vous dormez. Et pareil, elle vous donne un score de sommeil à l'arrivée parce qu'elle est capable de savoir si vous ronflez, si vous avez des problèmes de respiration, d'apnée du sommeil. Et ça, vous l'avez toute la journée et elle s'adapte et elle apprend à vous connaître.
En tout cas, si vous êtes insomniaque, vous le voyez, il y a plein de solutions à votre disposition. N'hésitez pas à réécouter cette chronique de Mélinda d'Avansoulas. On vous met également la référence de tous les objets que Mélinda a présentés aujourd'hui. Vous pouvez la réécouter, cette chronique, en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un... Tiens, le bruit de l'argent qui tombe, il est là, Rémi.
Je l'avais dit, l'alerte pour le coffre RMC peut tomber à tout moment et c'est maintenant. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire pour tenter de remporter jusqu'à 50 000 euros. 5 minutes en envoyant le mot coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
Allez, dans un instant, on se posera cette question. Faut-il rembourser les frais médicaux en fonction des revenus? Bruno Le Maire en a parlé avant de rétro-pédaler. Mais est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne solution? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.